Lorsqu'on l'avait interrogé sur le soir où James Cordell avait été assassiné, James Noon avait donné aux policiers une seule et même adresse pour son domicile et son lieu de travail. Appartement ou bureau, McCallum n'aurait su dire ce qu'il allait trouver en arrivant dans Atoll Avenue. Située dans North Hollywood, cette partie-là de la vallée était un curieux mélange de demeures résidentielles, de commerces et de zones industrielles. Il remonta lentement la 101, repassa le col de Cahuenga en sens inverse et put enfin rouler un peu plus vite après avoir pris la 134 en direction du nord. Le quartier dans lequel il aboutit était à caractère très nettement industriel. Il sentit des odeurs de boulange et longea une cour clôturée derrière laquelle des dalles de granit s'entassaient jusqu'au ciel. Ici et là se trouvaient divers entrepôts sans aucune indication de propriétaire. Puis il tomba sur les hangars d'un grossiste en produits chimiques et sur un centre de recyclage de déchets industriels. Juste à l'endroit où Atoll Avenue se terminait en cul-de-sac, butant devant une ancienne voie ferrée envahie d'herbes folles, il s'engagea dans une longue descente bordée des deux côtés par un alignement interminable de garages à baies vitrées, chacun de ces derniers ayant été transformé en échoppe ou garde-meuble. Sur le rideau de certains se lisait la raison sociale d'une entreprise. D'autres ne portant aucune indication particulière, soit que l'espace n'ait pas été loué, soit encore qu'on s'en servit comme d'un entrepôt anonyme. McCallum arrêta la Taurus devant la porte rouillée, derrière laquelle, 3 mois plus tôt, James Noon avait déclaré habiter. En dehors du numéro, la porte ne se différenciait pas des autres. Il coupa le moteur et descendit de voiture. Il faisait nuit noire, ni lune, ni étoile. La rangée de garage était sombre, hormis un seul et unique projecteur laissé allumé à l'entrée. McCallum jeta un coup d'œil autour de lui. Il entendit un petit bruit de musique, Jimi Hendrix en train de chanter « Let me stand next to your fire », qui semblait venir de très loin. 6 garages plus loin, il vit que la porte de l'un d'entre eux s'était coincée lorsqu'on l'avait abaissée et qu'elle découvrait l'intérieur de la pièce sur une bande d'environ 1 mètre de long. On aurait dit une grimace encore plus noire que le ciel. McCallum regarda le garage de Noon et s'agenouilla pour examiner l'endroit où le bas de la porte touchait le trottoir en ciment. Sans en être sûr, il eut l'impression qu'une faible lumière brillait à l'intérieur. Il se rapprocha encore et aperçut un cadenas passé à 2 anneaux en acier, le premier soudé à la porte, le second coulé à même le ciment. Il se releva et tapa sur le rideau métallique avec la paume de sa main. Le vacarme qu'il déclencha se répercuta dans la pièce. McCallum recula et jeta de nouveau un coup d'œil autour de lui. Pas un bruit en dehors de la petite musique. L'air était immobile. La brise nocturne n'atteignait même pas l'allée entre les 2 rangées de garages. Il remonta dans la voiture, fit démarrer le moteur et recula de manière à ce que la lumière de ses phares soit en partie au moins braquée sur le garage. Puis il coupa le contact et gagna le coffre arrière. Il l'ouvrit, en sortit le cric puis la manivelle et s'approcha de nouveau du rideau en acier. Il scruta encore une fois la rue du haut jusqu'en bas et se pencha sur le cadenas. Il n'était jamais entré chez quelqu'un par effraction du temps où il travaillait pour le bureau. Il savait que la chose se pratiquait couramment, mais avait, Dieu sait comment, toujours réussi à éviter le dilemme moral que cela représentait. Mais pas de dilemme ce coup-ci, il attaqua le cadenas de toutes ses forces. Il ne faisait plus partie du FBI et l'affaire avait pris un tour personnel. Non content d'être un tueur, Noon avait essayé de lui faire endosser ses crimes. Le droit que cet assassin aurait eu d'être protégé d'une perquisition illégale, McCallum s'asseyait dessus. En tenant la manivelle par le bout afin d'obtenir un effet de levier, il commença à faire lentement tourner la barre d'acier dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cadenas ne voulait rien savoir. Mais l'anneau fixé à la porte grinça fort sous la pression et finit par casser net lorsque les points de soudure lâchèrent.